Chapitre 6. Alex avait tout organisé. Le kinésithérapeute de Didi devait les retrouver, de même que Phil et Neil, sur les lieux du premier meurtre et de la dégringolade de Didi. À 7h du matin, celle-ci était assise dans la cuisine en face du petit Jack, à qui elle donnait sa béquille de Cheerios, tout en se livrant à leur concours de la grimace la plus ridicule. Comme d'habitude, Jack gagnait, mais Didi trouvait qu'elle se défendait bien. À 8h, Alex conduisit Jack chez sa nounou, une voisine au bout de la rue. Didi se persuada qu'elle n'avait pas le trac. L'idée d'Alex, partir de ses lésions pour reconstituer l'incident qui l'avait amené à faire usage de son arme, tenait parfaitement la route. Les experts en collision font cela à longueur de temps. Ils examinent l'épave du véhicule A, l'épave du véhicule B, et rendent une analyse d'une stupéfiante précision qui leur permet de déterminer les responsabilités dans l'accident. Si ça marche avec des voitures, pourquoi pas avec un corps humain? À 8h30, Alex était de retour et le vrai défi commença. Enfiler des vêtements propres, malgré la mobilité réduite de son bras gauche et la douleur atroce qui irradiait encore vers son cou et son épaule. Melvin, dit-elle en regardant son bras replié dans le miroir. Aussitôt, son épaule fut traversée par un éclair de douleur. Élongation des muscles, inflammation des nerfs, lui avait-on expliqué. Il faudrait des mois de convalescence. Que lui avait dit la psy déjà? De parler à Melvin, de lui dire qui était aux commandes. D'accord, dit-elle en s'adressant à son reflet. Voilà ce qui se passe. J'ai une grosse matinée devant moi. Il va falloir que je bosse et ça consistera en partie à essayer de me souvenir de ce que toi, tu m'as fait oublier. Son épaule resta, une épaule, réfléchie dans un miroir. Oh putain! Je n'ai jamais vu un truc aussi stupide, aussi débile! Très bien. Elle regarda son reflet d'un air encore plus mauvais. Je vais enlever ses vêtements. Ensuite, je vais me doucher pour me sentir mieux dans ma peau. Et encore après, j'enfilerai une tenue de yoga bien près du corps parce que telles sont mes instructions. De fait, son kinésithérapeute lui avait donné pour consigne d'arriver en pantalon de yoga et t-shirt moulant noir. À noter qu'il allait apporter des craies, Didi n'aurait pas été étonnée de devenir le tableau noir. « Je ne veux rien savoir, » continua-t-elle sans pitié. « Ce sera comme ça, un point c'est tout. Alors, prends-toi des vacances, je ne sais pas, Melvin. La vie continue et j'en ai ras-le-bol de rester cloîtrée dans cette maison, de porter les vêtements de mon mari et de puer comme un animal de ménagerie. Ça fait 6 semaines que cette plaisanterie dure et il faut que ça change. Je ne suis pas faite pour traîner toute la journée. Si tu es moi, tu dois bien le savoir, Melvin, tu dois le comprendre. » Alex apparut dans le miroir, sur le pas de la porte.
« Ça marche ?»«
Putain de bordel de merde !»«
Je vais considérer ça comme un peut-être. »«
Fais chier !»«
On y va ?»
Il entra dans leur chambre et désigna le haut de Didi, c'est-à-dire une chemise à lui trop large qu'elle avait boutonnée par-dessus son bras gauche.
« C'est parti !»
Il déboutonna la chemise de haut en bas. À une époque, voir cet homme la déshabiller avec application devant un miroir en pied aurait fait trembler ses genoux de désir fébrile. En l'occurrence, elle se sentait engourdie. Ou plutôt non, elle se sentait cassée, faible et inutile. Ce qui était pire qu'engourdie. Engourdie, ça aurait été un cran au-dessus. Alex écarta la chemise de son épaule avec des gestes doux. Il dégrafa son soutien-gorge et fit glisser la bretelle avec précaution sur son bras traumatisé. Un simple frôlement et elle sursauta. Ses nerfs irrités protestaient violemment. Alors qu'il en finissait avec son buste et passait à ses jambes, le regard bleu de son mari où se lisaient des excuses muettes croisa le sien dans le miroir. Ce fut plus simple pour le pantalon. Chaussettes, culottes, il touchait au but. Alex ouvrit le jet d'eau et offrit son bras à Didi pour qu'elle entre dans la baignoire. À son tour, il se déshabilla, puis il la rejoignit dans l'espace exigu. Là encore, une activité qui, 2 mois auparavant, aurait été éminemment érotique, mais n'était plus désormais que l'illustration poignante de ce qui peut arriver à un couple en moins de 3 secondes. Elle se mouilla les cheveux, mais il lui fallut l'aide d'Alex pour les laver et les rincer. Puis, alors que l'eau coulait toujours, il la soutint pour sortir de la baignoire, l'enveloppa dans un immense drap de bain pour qu'elle ne prenne pas froid, et la laissa là, comme une enfant de 2 ans qui attendrait l'aide d'un parent pendant qu'il finissait ses ablutions avant de la rejoindre sur le tapis de bain. Par galanterie, il la sécha en premier, alors que lui, toujours mouillé, se refroidissait. Elle aurait dû en être reconnaissante, éprouver de la gratitude envers ce mari attentionné et compatissant, réaliser combien elle avait de la chance qu'il l'aide. Mais en réalité, elle était amère, en colère et frustrée. Pire, il le savait. Et pourtant, il s'occupait d'elle sans rien dire, jusqu'au bout, alors même que les ondes de rage impuissantes qu'elle dégageait témoignaient de son ingratitude. « Tu en ferais autant pour moi », dit-il finalement, ne serait-ce que pour détendre l'atmosphère. « Certainement pas. Je suis infoutu de m'occuper des autres. »«
C'est faux. Je t'ai vu avec Jack, tu sais. Tu peux jouer les durs à cuire devant le reste du monde, Didi, mais pas avec moi, jamais. »
La psy dit que mon véritable self se laisse dominer par une bande de managers tyranniques qui font les 400 coups dans mon psychisme.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Putain de bordel de merde de Melvin, murmura-t-elle, mais d'une voix qui ne lui ressemblait pas. Elle semblait dangereusement au bord des larmes.
Tu vas récupérer.
Il l'embrassa sur le sommet du crâne. Pas de mensonge avec moi, c'est bien ta règle, non ? Je peux me mentir à moi-même, mais pas à toi. Eh bien, ça marche dans les deux sens. J'étais dans ce cabinet avec le médecin quand il a dit qu'il était possible que je ne retrouve jamais pleinement l'usage de mon bras. Et j'ai passé la visite médicale de la brigade criminelle suffisamment de fois pour savoir ce que ça signifie. Si on plante le test, interdiction d'aller sur le terrain. Tu me vois ne pas aller au boulot ? Qui est-ce qui délire, là ?
Tu vas récupérer.
Ne me mens pas.
Je ne te mens pas. Je te connais, Didi. D'une manière ou d'une autre, tu vas démêler tout ça, et tu vas t'en sortir. Tu sais comment je le sais ?
Non.
Parce que même en arrêt maladie, tu t'apprêtes à passer ta matinée à traquer un assassin. Allez, action. Arrête de nous retarder. Tant qu'à être en rogne, autant enfiler un t-shirt sur cette jolie épaule. Comment s'appelle ta douleur déjà ?
Melvin, répondit-elle en grommelant.
Salut Melvin, je m'appelle Alex, enchanté de faire ta connaissance. Et maintenant barre-toi.
Phil et Neil étaient déjà sur place. Didi entra dans la maison avec appréhension, comme si elle s'attendait à être environnée d'ombre et prise à la gorge par l'odeur du sang. Au contraire, le rez-de-chaussée baignait agréablement dans la lumière du jour qui entrait par les nombreuses ouvertures et s'affleurait bon le désinfectant. Le propriétaire avait dû être enfin autorisé à remettre le logement en état. Didi aurait parié qu'il avait engagé des nettoyeurs professionnels, une entreprise spécialisée dans ce genre de travail. Elle était curieuse de voir les prodiges qu'ils avaient accomplis à l'étage.
« Du nouveau sur les causes du décès ?» demanda-t-elle à ses collègues.
« Salut Didi, moi aussi je suis ravie de te voir, tu vas bien ?» répondit Phil pour la charrier.
« À merveille, je pourrais faire un championnat d'haltérophilie. Si seulement je pouvais bouger l'épaule, tu vois. »
« Neil !» D'un bras, elle étreignit maladroitement le benjamin de l'équipe pendant qu'Alex serrait la main des deux hommes. Neil, un rouquin dégingandé qui avait l'air d'avoir 16 ans alors qu'il en avait 33, donnait enfin sa pleine mesure en tant qu'enquêteur au point d'avoir dirigé leur dernière affaire. Naturellement, Phil et Didi s'en attribuaient tout le mérite. Ils lui avaient tout appris. Comme Neil avait été ambulancier avant d'entrer dans la police, il lui revenait d'assurer la liaison avec les services du légiste, et de ce fait, il était le plus à même de répondre à la question de Didi.
« Chloroforme !» indiqua-t-il.
Didi prit acte de l'information. Alex et elle étaient postés à côté de l'îlot de la cuisine. Les meubles de Christine Ryan n'avaient pas encore été enlevés, mais s'asseoir sur le canapé d'une morte aurait semblé irrespectueux, si bien qu'ils se regroupèrent tous les quatre dans cette pièce.
« Ils les auraient tués par overdose de chloroforme ?»
demanda Alex.
« Ça existe, une chose pareille ?»« Elles ne sont pas mortes d'overdose, mais il les a mises hors d'état de résister. »
Pour être honnête, Ben aurait dû détecter l'odeur sur le premier cadavre, mais selon ses propres termes, tous ces lambeaux de peau l'ont un peu distrait.
On peut sentir le chloroforme sur un cadavre ? Didi ne savait pas très bien si la nouvelle était passionnante ou horrifiante.
Absolument ! L'odeur persiste autour de la bouche et des sinus. Une des premières étapes d'une autopsie consiste à sentir le cadavre. Beaucoup de poisons et de toxines se manifestent de cette façon. Comme je vous le disais, Ben vous présente ses plus plates excuses.
Ben Wheatley, le médecin légiste, était aussi l'ancien amant de Neil. La rupture avait été douloureuse, mais tous deux semblaient avoir passé le cap.
Donc l'assassin commence par plonger les deux femmes dans l'inconscience, résonna Alex à voix haute. Il plissait les yeux, ça cogitait là-dedans.
Et ensuite ?
Asphyxie par compression thoracique.
Ah bon ?
S'étonna Didi. Ce n'est pas à cause de ça que les pédiatres déconseillent de dormir avec les nouveau-nés ? Parce que si un adulte roule sur le bébé en pleine nuit, il risque de l'étouffer par compression thoracique.
Exactement. L'asphyxie se produit quand la poitrine ou l'abdomen de la victime est comprimée au point qu'elle ne peut plus inspirer, d'où la suffocation.
Donc, notre assassin est sans doute un individu assez corpulent pour avoir écrasé deux femmes sous son poids,
dit Alex.
Pas forcément. On peut aussi provoquer une asphyxie en exerçant une forte pression à un endroit stratégique. Par exemple, en maintenant un genou enfoncé dans le diaphragme de la victime pendant le temps nécessaire.
Étant donné que les victimes étaient déjà dans les vapes, je ne suis pas du tout persuadée que notre assassin ait un physique imposant, murmura Didi. Être grand donne généralement un sentiment de puissance, non ? Alors que cette méthode, entrer en catimini, surprendre ses victimes, les droguer et les étouffer aussitôt pour passer au plat de résistance, une mutilation post-mortem extrêmement ritualisée, ça me fait plutôt penser à un type qui chercherait à écarter tout risque d'affrontement. Un type qui n'aurait aucune confiance en lui, peut-être même un avorton intimidé par les vraies femmes. Ça expliquerait que dans ses fantasmes, elle soit morte.
Est-ce qu'il y a une chance pour que les victimes n'aient jamais repris connaissance ? Qu'elles n'aient jamais su ce qui leur arrivait ?
C'est possible, confirma Neil. Ben a conclu à la mort par asphyxie, en se fondant sur la présence de pétéchie sur la conjonctive des yeux et le haut du torse. L'ennui, c'est que d'habitude, pour connaître la technique de l'assassin, il fait l'inventaire des contusions dans les régions thoraciques et abdominales. Or, en l'occurrence, l'autopsie est compliquée par le fait que la peau a été retirée de ces zones.
Peut-être précisément pour brouiller les pistes, alors.
Phil Philamou secoua la tête.
Je pense que ce serait lui accorder beaucoup de crédit. Cette technique d'étouffement, ça consiste en gros à monter sur le lit pour écraser ses victimes, non ? Rien de bien sophistiqué. Ça me fait plutôt penser à un mec qui chercherait l'efficacité. Le meurtre en deux temps, trois mouvements.
Il entre, reprit Alex. Monte sans bruit à l'étage. Chloroforme ses victimes dans leur sommeil pour écarter tout risque de résistance et les étouffe, un genou sur le diaphragme.
Tu as raison. Deux temps, trois mouvements.
Il tue de la manière la plus expéditive possible. Et ensuite, il ralentit la cadence, prend son temps, s'attarde sur chaque dépouille, sans doute pendant plusieurs heures.
Intéressant.
Pourquoi une asphyxie par compression ? Demanda Didi. C'est assez inhabituel, surtout entre adultes. Pourquoi ne pas les étouffer avec un oreiller ? Plus classique comme méthode.
Phil et Neil séchaient, mais Alex avait son idée.
Il s'assoit à cheval sur les cadavres. Tu te souviens ? Nous avons les empreintes de ces tibias de part et d'autre de leurs hanches. Cette position ne lui sert pas seulement à les mutiler, mais aussi à les tuer.
Une position de domination, ça saute aux yeux. Et pourtant, dit Didi en consultant Neil du regard, toujours pas de signe d'agression sexuelle ?
Neil secoua la tête.
C'est le verdict de Ben, mutilation post-mortem, oui, agression sexuelle, non.
D'autres informations sur le couteau ? Demanda Alex.
Non, mais tu devrais voir la collection d'armes blanches que Ben a constituée pour faire ses comparaisons. Il en a pour un petit moment.
J'ai pensé à un chasseur, lança Didi. Le rapport d'autopsie de Christine Ryan indiquait que les lanières de peau avaient été découpées avec beaucoup de savoir-faire. Les seules personnes que je vois qui aient l'habitude d'écorcher des cadavres, ce sont les chasseurs.
Alors cette nuit, j'ai regardé des vidéos YouTube sur la façon de dépouiller le gibier. Lapin, écureuil, cerf, orignaux, etc.
Alex la considérait d'un drôle d'air, comme s'il venait seulement de réaliser que sa femme s'était relevée en pleine nuit. Elle se demanda ce qui était le pire. Qu'il n'ait pas remarqué son absence ou qu'il l'imagine à présent traversant à pas de loup leur maison plongée dans le noir pour aller regarder des vidéos gore sur le dépeçage du gibier. Elle avait trouvé ces images dérangeantes. Étonnant,
vu le temps qu'elle avait passé dans sa vie à regarder des êtres humains découpés en morceaux. Et cependant, elle n'était pas retournée se coucher tout de suite. Non, elle était restée un moment dans la chambre de Jack et avait regardé son fils dormir à poings fermés dans la lueur réconfortante de sa veilleuse. « Je ne chasse pas, » continua-t-elle. « Alors j'avoue que je n'y connaissais rien. Mais après avoir visionné une dizaine de tutoriels, les chasseurs expérimentés ne se servent même pas vraiment de leur couteau. Quelques incisions autour de l'anus, ils coupent la tête et hop, la plupart déshabillent l'animal à main nue. D'après ce que j'ai compris, c'est la meilleure technique pour ne pas abîmer la peau. Elle a plus de valeur si elle est d'un seul tenant. » Phil la regardait d'un air ébahi. « Mais qu'est-ce que tu as fabriqué ?»« J'ai tapé « dépouillé animal » dans Google et j'ai regardé quelques vidéos. » « Allez, quoi, il faut qu'on commence à entrer dans la tête de ce mec. Vous avez une meilleure idée ?»« Tu es en arrêt maladie. » »« C'est mon bras qui est HS, pas mon cerveau. » »« À vous, ces dernières semaines, vous avez consulté les fichiers de détenteurs de permis de chasse et procédé à des recoupements. » Phil rougit, mal à l'aise. « Ça se pourrait. » « Voilà. Parce que quand on pense cadavre écorché, on pense chasse. Logique. Mais je vous le dis, à mon avis, ce type n'est pas un chasseur. La technique est totalement différente. Sans parler des lames utilisées. Leurs couteaux de prédilection ont de grandes lames fixes, au moins 3 ou 4 cm de large. Ces mecs-là veulent du matériel solide et durable. Le cabar classique avec lequel ils pourront écorcher un cerf, vider un poisson ou creuser un trou. Je ne vois pas comment on pourrait détacher de fines lanières de peau du torse d'une femme avec une arme de ce genre, et encore moins se balader dans les rues de Boston sans attirer l'attention. « J'ai déjà vu des couteaux de chasse pliants, » contesta Phil. « Et j'ai des copains qui en ont toute une panoplie. Le cabar a son utilité, mais ils emportent aussi des couteaux plus petits et plus légers. » « Mais est-ce qu'ils retirent la peau de leur gibier en longues lanières fines ?»« Non, » reconnut-il à contre-cœur. Ça, ce serait une nouveauté. Cela dit, après avoir tanné le cuir, certains le découpent en lanières pour fabriquer des cordes, ce genre de choses. Avec la recrudescence de parano qui se prépare pour la fin du monde, Dieu sait le nombre d'illuminés qui sont en train de s'initier à des techniques de survie avant-gardistes. « Ce type ne se prépare pas à la fin du monde », affirma Didi. « Non, renchérit Alex. Son but, c'est de dominer. De contrôler, pas de s'entraîner à des techniques de survie. D'ailleurs, il n'en est plus à s'entraîner, ajouta Neil avec flegme. L'utilisation du chloroforme, cette méthode d'asphyxie particulière, cette manière méticuleuse de retirer la peau, ce type sait exactement ce qu'il fait. Il n'apprend pas au fur et à mesure, c'est déjà un pro. Un coup de sonnette retentit. Parce qu'il se trouvait sur une scène de crime, ce bruit pourtant des plus banals les fit tous sursauter. Ce qui eut le don de les agacer. Russ Hilg, mon kiné, devina Didi. Alex alla lui ouvrir. Tu es sûr d'avoir envie de faire ça ? Demanda Phil dès qu'Alex fut hors de portée de voix. Oui, pourquoi pas ? Phil et Neil échangèrent un regard. Didi, comprenant sa signification, les foudroya alors comme elle savait le faire. Vous n'avez pas à me couvrir, dit-elle avec hargne. Si au terme de cette reconstitution, la conclusion la plus logique est que je suis une folle dingue qui a tiré sans motif valable, eh bien c'est ce que vous devrez indiquer lors de l'enquête interne. Je ne demande pas la charité, je veux la vérité. « On est avec toi, » murmura Neil. « Quoi qu'il arrive, la brigade est une famille, tu le sais. »«
Merci bien, je la connais ta famille. »
Cette boutade leur tira un sourire. La famille de Neil était un ramassis de poivrons irlandais. Il disait souvent pour plaisanter que s'il en était la brebis galeuse, ce n'était pas parce qu'il était homosexuel, mais parce qu'il ne buvait pas. Alex revint dans la cuisine, accompagné d'un homme relativement jeune, 1m85, sportif, en jogging noir. Didi fit les présentations. Phil et Neil, police criminelle de Boston. Russ Hilg, mon tortionnaire, mon kiné. Échange de poignées de main. Didi, en revanche, gardait les coudes plaqués au corps pour que personne ne voie ses mains trembler de nervosité. Son premier choix pour cette mission aurait été son médecin. Mais l'emploi du temps des docteurs en médecine ne leur permet pas d'aller se promener en ville au pied levé. Russ avait donc accepté de le suppléer. D'ailleurs, comme il l'avait fait remarquer, les médecins ne font que diagnostiquer, tandis que son travail à lui consistait à reconstruire et réparer, ce qui lui donnait une connaissance beaucoup plus fine des lésions à la fois passées et présentes. En sa qualité de directeur d'enquête, Phil les conduisit au pied des escaliers. Didi vit les impacts de balles dans la cloison, à main droite. Trois marques à bonne distance, les unes des autres. Si elle avait visé quand elle avait tiré, cela ne témoignait pas de son adresse. Phil s'éclaircit la voix.
Donc, Didi, le commandant Warren, a été retrouvée inconsciente au pied des marches. Étant donné la gravité de ses lésions, notre hypothèse est qu'elle a fait une chute depuis le sommet.
Russ hocha la tête. Il gardait les yeux rivés sur la pente droite de l'étroit escalier et évitait de regarder Didi, qui lui en savait gré. D'un seul coup, elle n'était plus si fière. L'estomac barbouillé, elle sentait une nouvelle fois la sueur perler à son front.
Un bébé dans un berceau.
Elle ferma les yeux comme si cela pouvait chasser ce mauvais pressentiment. Sa nervosité l'exaspérait. Elle était là pour se souvenir, c'était une nécessité absolue. Elle s'obligea à ouvrir les yeux et les fixa sur les impacts de balles. Ses impacts, ses balles, son pistolet. C'étaient les siens. Quoi qu'il arrive, il la suivrait toujours.
« Bon !» commença Russ, comme s'il lisait dans ses pensées. « La première chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de rampe côté mur. Je pense que ce n'est pas aux normes, mais ça arrive assez souvent dans les vieilles maisons rénovées où les escaliers sont étroits. »
Tous approuvèrent. Cette seule donnée permet d'affirmer que Didi est tombée en arrière, le visage tourné vers l'étage. Il désigna l'escalier d'un geste et ils montèrent docilement à sa suite en file indienne.
« Quel est votre premier réflexe quand vous tombez ?»
demanda-t-il. Personne ne répondit à cette question qui semblait purement rhétorique.
« Vous tendez une main pour vous raccrocher. En l'occurrence, Didi, tu tiens ton arme de la main droite, c'est bien ça ?»
Elle confirma.
« Vu que tu as tiré trois coups, tu avais encore ton pistolet à la main quand tu es tombé. Donc, tu t'es rattrapé avec la gauche, ce qui explique les lésions subies par ton épaule. »
Russ, arrivé en haut des marches, leur fit signe de passer derrière lui dans le couloir. Puis il recula de quelques pas, attrapa le haut de la rampe de la main gauche et s'y suspendit. Didi vit immédiatement la rotation et l'étirement des muscles du cou, de l'épaule et du bras gauche que ce mouvement provoquait. Ce fut plus fort qu'elle. Elle grimaça et se détourna, le coude encore plus près du corps.
Didi tombe en arrière, racontait Russ d'une voix neutre. Elle cherche à se raccrocher avec sa main gauche pour atténuer la violence de la chute. Lorsqu'elle attrape la rampe, son bras est soumis à un brusque mouvement d'abduction et de rotation externe. La torsion entraîne une fracture par arrachement de la petite tubérosité de l'humérus gauche, autrement dit, les tendons qui relient le muscle à l'os en détachent un morceau. Ensuite, par ordre chronologique, sa tête s'écarte brutalement de son épaule gauche à cause du coup d'arrêt, ce qui provoque un étirement du plexus brachial. À ce moment-là, vu la douleur atroce qui lui crucifie le cou et l'épaule, elle lâche sans doute la rampe. Sa chute a été ralentie, mais elle est toujours en déséquilibre. D'où le roulé-boulé jusqu'au bas des escaliers, où elle arrive la tête la première. Ce qui explique les ecchymoses dans le dos et la légère commotion cérébrale.
Russ lança un regard à Didi. J'ai oublié quelque chose ? Il me semble que j'ai fait le tour de ton dossier. Elle confirma. Il la considérait d'un œil bienveillant, compatissant même, ce qui n'arrangeait rien. Elle n'avait plus envie d'être là, dans cette maison, dans ce couloir, avec toutes ces ombres insaisissables dans la tête.
« Pourquoi tournais-tu le dos à l'escalier ?»
demanda Alex. Didi regarda autour d'elle et se rendit compte que c'était une question légitime. Phil, Neil, Alex et elle étaient tous en haut des marches, mais chacun surveillait le vide du coin de l'œil, attitude dictée par l'instinct autant que par la prudence.
« Je regardais derrière moi, » murmura-t-elle.
Tous l'observaient. Elle se retourna vers la chambre au bout du couloir, ouverte. L'odeur pénétrante du sang, la nuit qui tendait ses longs tentacules noirs autour d'elle, seule au milieu des ombres. Elle ne voulait pas voir mais ressentir ce fameux soir. Et là, j'ai entendu quelque chose.
Quelque chose ?
Demanda Phil d'un ton bourru.
Ou bien quelqu'un ?
Je ne sais pas. Je me suis retournée, ensuite je suis tombée.
Non.
Pardon ? Elle se tourna vers Russ, toujours à mi-hauteur dans les escaliers. Sous les regards de 4 policiers braqués sur lui, il rougit d'un seul coup.
Enfin, il y a peu de chance.
Comment ça ?
Ta blessure. La fracture par arrachement est relativement rare. Pour qu'elle se produise, il faut une force suffisante pour que le tendon arrache un fragment d'os à son origine ou point d'insertion. Les os sont assez solides.
Russ continua, comme si tout cela aurait dû tomber sous le sens. Les tendons n'arrachent pas des morceaux d'os pour un oui ou pour un non. Il faut une traction très violente, donc la chute de Didi devait être particulièrement rapide. Comme si elle avait couru sur le palier ou qu'elle avait sauté. Mais vu qu'à ce moment-là, elle tournait le dos aux marches...
« Oh mon Dieu !» murmura Didi. « Je ne suis pas tombée. »
« Non, » dit Alex en l'enlaçant par la taille dans un geste protecteur. « On t'a poussée. »